Troisième chapitre, où mon oncle montre le fond de son cœur. Pour un empire, mon oncle n'aurait pas voulu avouer à des tiers la grosse larme qui roulait lentement parmi les rubis de sa joue. Je me jetais dans ses bras. Il fit mine de me repousser, mais il me serra contre sa poitrine. « On peut s'embrasser de plus loin, pas vrai, chevalier ?» reprit-il en manière d'apologie. « Après Vivette, tu es mon plus proche parent. Mais où s'amène-t-il ? Eh bien voilà, mon registre n'est pas bavard, puisqu'il reste les trois quarts de son papier blanc, sauf les taches de sauce. Depuis près de 100 ans qu'il est dans la famille, et cependant il dit bien des choses. Tu vois ces petites croix qui n'ont l'air de rien ? Chacune d'elles marque des funérailles. Ici, c'est le deuil d'une ferme. Là, celui d'un moulin, d'un étang, d'un clos, d'un taillis ou d'un balivaudage. Nous étions riches. Après, nous voilà pauvres. On tâchera de boire tout de même. Si tu voulais me dire que tu ne m'en veux pas pour ton mariage manqué, ça me ferait plaisir tout de même. Nous nous aimons bien, Vivette et moi, murmurai-je. Et crois-tu que tu ne me manqueras pas ? S'écria mon oncle impétueusement. « Je suis habitué à toi comme à ma pipe, calotte à papa. Qu'aurais-je pour te remplacer ? Ce vieux grigou de Merlin ? Je ne peux pas le voir en peinture. Mais sois tranquille, notre Vivette le mettra dans sa poche. Et qui sait ? Le coquin est encore dur, mais il a de l'âge. Et c'est peut-être par sa veuvière que tu rentreras dans ta maison de Kéramour. Vous l'avez perdu par une vieille fille, elle vous reviendra par une jeune veuve. » Ah ah ah, voilà, toutes les nièces sont rousses. L'idée n'est pas mauvaise, eh ?
Il plongea la main dans sa poche et en retira 2 écus de 6 livres.
Mon gars, me dit-il brusquement, les plus courts adieux sont les meilleurs. Je te donne taupin pour ton voyage avec la selle et la bride. Va faire ta valise, prends ces 2 braves écus et bonne chance. Je ne veux plus te revoir.
Quoi ? M'écriai-je.
« Vous me chassez tout de suite ? À coups de bâton s'il le faut, oui, mon pauvre petit gars. Il faut avoir pitié de Vivette. Et puis, c'est dans mon marché avec le Merlin. Je ne connais personne à Paris à te recommander. Mais on m'a dit que Noël Menou de Pain d'Or, l'ancien domestique de ton père, avait fait fortune à la cour. Il est, à ce qu'il paraît, chambrier d'un ministre. Fais ton profit de cela. Et décampe, chien d'anglais ! Tu devrais déjà être parti !»
Il fourra dans ma poche les 2 pièces de 6 livres que je ne prenais point. Je balbutiai. « Mon oncle, je ne peux pas vous dire ce que je ressens. »«
Beaucoup de rancune, mon gars. »«
Non, sur l'honneur. »«
Et un peu de reconnaissance. Il n'y a pas de quoi boire. »
Il me prit par les épaules, me fit tourner de l'autre côté de la porte qu'il ferma sur moi.
Mais je l'entendis qui disait en un véritable gémissement. « Oh, misère, 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 toutes les nièces rousses, et les 5 prêtres, et le 5e ton, le diable et ses cornes, ça vaut mieux que de jurer. Il faut donc mettre une croix sur le registre pour dire que j'ai vendu aussi ces 2 enfants-là pour boire. »
Je montai à ma chambre, résolu d'obéir. Mon cœur se fendait à la pensée de quitter Vivette sans même lui donner le baiser d'adieu. Mais je ne peux dire à quel point je respectais la volonté de Monsieur le Bihan. Je l'admirais tel qu'il était, vices et vertus. Et pendant que je faisais ma valise, je revoyais toujours cette grosse larme roulant le long de sa joue rougeaude à la pensée de ma mère. L'arrimage de mes effets dans le porte-manteau n'était pas une besogne compliquée. Comme j'achevais, Joson entra sans frapper. Joson était de Pain d'Or, et frère de ce Noël Menou qui avait servi mon père en qualité de petit valet.
« Voilà ce que c'est, » me dit-il. « Je ne mens point. La demoiselle est en bas qui pleure. Elle a tout écouté derrière la porte de l'étable. Elle dit comme ça qu'il faut passer, en vous en allant, par la grande avenue de Kéramour. Si vous voulez, monsieur le chevalier, j'irai domestique aussi, moi, avec vous, jusqu'à Paris, faire fortune, comme de juste.
Je ne sais pas si, depuis sa naissance, Joson avait jamais prononcé un aussi long discours. « Mon brave garçon, » répondis-je, « je n'ai en tout que 12 livres. »«
Ça ne fait rien. »«
Et comment me suivras-tu ? » ?»«
À pied, donc. » »«
Et si tu es malade en route ?»
Sa large bouche s'ouvrit pour rire tout bas. « Joson malade. » C'était là, en effet, une drôle d'idée. « Alors,
conclut-il, voyant la faiblesse de mes objections. C'est dit, je vas faire mon paquet, sûr et vrai, et lier mes sabots. Il s'éloigna. Je descendis à l'écurie pour céder au pain. Ce n'était pas un coursier de bataille. Il avait charroyé du charbon pendant 10 ans dans la forêt de Quimperlé avant de venir chez nous, et je le voyais porter mon oncle depuis tantôt 10 autres années aux foires et pardons des alentours. Mais ces petits chevaux du Finistère, vifs et sobres comme des chèvres, vivent aussi vieux que des corbeaux. Le nom de Taupin disait sa robe, qui était noire, avec des reflets d'un gris fauve. Il allait la tête basse et les jambes écartées, mais il allait tant qu'on voulait. Je lui mis ma valise sur le dos et le fis sortir dans la cour. Mon oncle était debout et les bras ballants à la porte de l'écurie. Sa pipe éteinte pendait tristement à ses lèvres. « Chevalier, me dit-il d'une voix véritablement altérée, te voilà donc qui t'en vas, mon pauvre petit gars. 3 péchés mortels, coquine de duchesse Anne, saligaud de français. Je n'aurais pas cru que j'aurais tant de mal à me séparer de toi. Et il faudra que le Merlin mette 6 autres fûts avec une barrique de vin vieux que j'avais oublié. Il peut bien ajouter un tonnelet d'eau-de-vie, pas vrai, cadet? Ventre bleu, calotte à papa. J'ai le cœur trop triste. Veille à Taupin dans les descentes. Le fer de derrière à droite n'a qu'un clou. Et ne me la fais pas trop pleurer. J'entends Vivette à qui j'ai permis d'aller t'attendre au grand carrefour. Veux-tu boire un coup? Non? Alors bon voyage. La 13e barrique. Si j'étais notre âne, je brairais. Il me serra la main terriblement dure et se sauva dans la cuisine. Les 5 valets et les 6 servantes me firent escorte jusqu'au seuil de la cour. Il ne manquait que Joson. Un instant, je le cherchais des yeux, puis je n'y pensais plus. « Bonsoir, à revoir, monsieur le chevalier !» criaient tous ses braves amis à tue-tête. « Ça va être du deuil assez par chez nous, de ne plus vous voir ni soir ni matin. Et le Merlin à la place de vous, misère de malheur. La bénédiction du bon Jésus et de la Sainte Vierge Marie, c'est la maison qui sera grande. Portez-vous bien, monsieur le chevalier, et le paradis après vos jours. » Je mis Taupin au petit galop dans le chemin qui montait à la lande, entre les 2 taillis de châtaigniers. J'avais donné des poignées de main à tout le monde, et là, c'est rien avec. Mais jusque par-delà les taillis, je les entendis qui récitaient pour moi le paternoster de si bon cœur. Tout ce que je voyais me serrait la poitrine. Le pré gras où l'on coupait l'herbe pour l'étable, le douai, bassin, près de la fontaine, où les laveuses battaient le gros linge en mesure, les guérets qui attendaient encore une semaille de blé noir, et les choux grands comme des arbres, et les froments déjà hauts qui ondulaient à la brise. Chapeau bas, je dis adieu au clocher. J'envoyai un baiser aux 2 pauvres croix de bois plantées l'une à côté de l'autre, dans le petit cimetière. Là, dans le cimetière et dans l'église, l'histoire de notre maison était racontée par les tombes. Nous avions été toujours en descendant depuis des siècles. Dans le cœur de la paroisse, 3 Kéramours dormaient sous des dalles de granit. Et les dalles disaient de chacun d'eux « Ô et puissant Seigneur !» Puis la mort avait passé le seuil. 3 autres tombes étaient tout près du porche. Puis d'autres vers le milieu, des maîtres et des maîtresses de pain d'or. Puis les 2 dernières qui n'avaient ni table ni grillage et se cachaient le long du mur. Vers quel autre lointain champ de repos allais-je, moi le banni, plus pauvre qu'un mendiant? Quelqu'un prendrait-il seulement la peine d'écrire mon nom avec un « Priez Dieu pour lui » sur les 2 lattes croisées pour marquer mon dernier asile? Ventre bleu, comme disait mon oncle, le soleil brillait là-haut joyeusement, annonçant déjà sa tombée par le rose orangé qu'il mettait au rebord des nuages. Je n'étais pas d'humeur à garder longtemps ces mélancolies. J'allongeai un coup de houssine à Taupin et je me dis « Chevalier, mon seul ami, c'est quand on est en bas de la côte qu'il s'agit de remonter. La méchante veine ne peut pas durer toujours. Et Dieu t'a fait un fier cadeau, mon homme, c'est de n'avoir plus rien à perdre. » La route montait justement. Au sommet, comme une opulente couronne, le parc de Kéramours arrondissait les jeunes verdures de ses vieux arbres. Je me dis encore, puisqu'on peut tout perdre, on peut tout gagner au jeu de la vie. En avant, Taupin, ma bique, tu ne t'en doutes pas, ni moi non plus, mais nous allons peut-être à notre fortune. Comme je parlais ainsi, j'entrais sous la futaie pour abréger la route qui devait me conduire au grand carrefour. Je n'avais pas fait 200 pas sous le couvert que je vis quelque chose de noir pendre à une branche, comme ces sentinelles de paille qui gardent les cerises mûres contre le pillage des merles et des moineaux. Je pensais tout de suite à ce pauvre bonhomme le Gall, le chantre de Guidelle, et je m'approchais dans l'intention de couper la corde, s'il était temps encore, par hasard.